Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour! Je vais passer à la deuxième question que j'ai reçue en message privé. Et bien sûr, si vous avez des questions pour améliorer un peu votre vie de famille et votre sérénité, je vous invite à m'envoyer un message privé sur Clubhouse ou sur Instagram ou sur Facebook. Donc la deuxième question, c'est on n'arrête pas de se disputer dans le couple depuis la naissance du deuxième enfant. Les tensions s'installent, on a l'impression d'aller droit dans le mur. On ne sait plus comment faire. On est agacé, fatigué, on râle l'un sur l'autre et on est en train de compter les points. Donc ce phénomène, qui est bien connu des accompagnants à la parentalité, ce phénomène qui s'appelle aussi le baby clash à l'arrivée de l'enfant, vient tout naturellement du fait que la charge mentale, la charge domestique, la charge émotionnelle et la charge intellectuelle est décuplée à l'arrivée du premier, du deuxième, du troisième enfant. Vous aviez sans doute votre équilibre à deux dans le couple. Avant le premier enfant, vous aviez vos rêves, vos projets, vous aviez vos habitudes, vous aviez votre spontanéité. À l'arrivée du premier enfant, la spontanéité fait place à l'organisation. Tout simplement parce qu'on a du mal à dormir, qu'on est fatigué, que le cocktail d'hormones de l'accouchement, de la sortie de maternité, de la mise en place du sommeil, de l'alimentation, peut-être de l'allaitement, la reprise du travail, tout ça, ce sont des déclencheurs, des étincelles qui allument des flammes de changement, de peur, de doute, de culpabilité, d'indécision. Comment on fait pour affronter toutes les micro-décisions de la sortie de la maternité au premier anniversaire de l'enfant? Il y a tellement de choses à décider. Qui va le garder? Qui s'en occupe? Qui se réveille la nuit? Qui lui donne à manger? Qui va l'emmener chez le docteur? Ce sont des points de logistique qui, dans le couple, mérite d'être posé avant l'arrivée de l'enfant. Mais si l'enfant est là, on va partir du principe que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Un peu comme quand je vous avais évoqué la question de la dispute. Des deux côtés, il y a des bonnes raisons d'être dans un état d'agacement. Que ce soit la maman ou le papa, si vous êtes en couple hétérosexuel, que ce soit la maman et la deuxième maman, etc., chacun des deux a une bonne raison d'être agacé, d'être frustré, de se sentir mal. Mais, comme dans la dispute entre enfants, je vais vous amener vers « je me sens mal et donc, qu'est-ce que je fais ?» La première chose, c'est que je vais aller voir comment je me sens mal, pourquoi je me sens mal, quels sont les besoins qui clignotent sur mes rayures d'arc-en-ciel de besoins. Si je ne me sens pas bien, si j'ai besoin de crier sur mon partenaire de vie, de lui rendre la responsabilité de mon émotion, c'est que je me suis perdue en fait dans mon autonomie émotionnelle. Je me suis perdue dans mon autonomie émotionnelle quand je crois que c'est à cause de mon mari, que c'est à cause de ma femme, si ça ne tourne pas, si ça ne va pas. Alors c'est peut-être dur à entendre, si vous me découvrez et que vous entendez justement cette thématique-là aujourd'hui, vous dites, évidemment, c'est à cause de lui, c'est à cause de l'autre, si ça ne tourne pas, si ça ne va pas. Et moi, je vais vous amener doucement vers le non. Ce n'est pas à cause de l'autre, si vous vous sentez comme ça. Si je me sens mal avec mon partenaire de vie, si je lui reproche que ça n'avance pas dans la maison, que les tâches ne sont pas égalitaires, que l'enfant, je m'en occupe plus que lui, tout ça, ce que je lui balance, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. Donc, je suis légitime à le ressentir, à le penser. Par contre, lui balancer tout ça sur lui et lui dire c'est à cause de toi si je me sens comme ça, c'est à cause de toi si je ne vais pas bien, que je suis en colère, que je suis frustrée, que tu ne te rends pas compte de tout ce que je fais pour toi, là on commence à compter des points en effet. Et la personne qui m'a envoyé la question m'a dit, quand j'ai l'impression de dire oui, bah moi aussi je fais ça, oui, je sors la poubelle. Quand on en est à compter qui fait la vaisselle et qui sort la poubelle, c'est que notre insatisfaction et notre frustration, elle est tellement forte dans notre cheminée qu'on ne sait plus comment la réagir, la ressentir, la traverser, la dépasser et qu'on se dit, bah, je vais dire que c'est la faute de l'autre. Et c'est dur parce que quand on traverse ça, on se rajoute une couche d'impuissance et de tristesse parce que notre couple, il n'était pas comme ça avant la naissance de l'enfant. Avant la naissance de l'enfant, on se disait, ouais, on a un super couple, on a des super projets, on va faire une magnifique famille. Et c'est là, quelque part, c'est encore dans votre cheminée. Cet espoir, cette envie, cette projection qu'on soit une famille heureuse, avec un couple épanoui, avec notre vie de femme, notre vie d'homme, notre sexualité, notre complicité, notre communication d'avant, c'est encore là. Mais ça a été pollué par tous les petits détails et la logistique de l'arrivée de l'enfant. Et l'arrivée du deuxième enfant. Et un déménagement. Et une mutation professionnelle. Donc quand on en est à compter les points dans le couple, quand on en est à s'énerver l'un contre l'autre, à reprocher à l'autre, à ruminer sur ce que fait l'autre, oui, bah lui, il a du temps tout seul, hein. Lui, il se pose dans le canapé alors que moi, je ne m'arrête pas. La moitié de mes clientes me disent « Le papa arrive à prendre du temps pour lui et moi, non. » Mais du coup, au lieu de se dire « Pourquoi moi, je ne prends pas du temps pour moi ?» Parce que j'ai un héritage sur je dois m'agir, faire des efforts, faire plus, faire mieux, faire parfait. Tout ça, on en parle très souvent. Mais c'est surtout que le papa, mais il arrive à prendre du temps pour lui, il arrive à dégager du temps pour lui parce qu'il n'a pas la même vision en fait. Il n'a pas les mêmes injonctions. Certains papas les ont, certains papas ne les ont pas. Mais si nous, on est frustrés parce que le papa prend du temps pour lui, c'est à nous d'aller voir ça. Comment ça se joue dans nos pensées, dans notre interprétation? Pourquoi je pense ça? Pourquoi j'ai l'impression que lui, il y arrive et moi, non? Qu'est-ce que je peux changer? Comment je peux twister ça pour me sentir moins frustrée dans ma relation de parent et de couple? Et c'est une thématique qui est tellement importante. Parce que si on commence à reprocher à l'autre parent nos émotions, on est en train de modéliser ça aussi pour nos enfants. Donc, je nous invite à voir que quand on a au point où on dit « Oui, bah, de toute façon, toi, tu fais rien, je fais tout, c'est toujours moi qui m'occupe de ça, tu ne te rends pas compte de tout ce que je fais », on est sur la pente glissante hein, du sacrificiel. Et en effet, la complicité, la connexion, l'amour, le soutien, le partage s'éloignent de plus en plus. Pourtant, ce sont des besoins qu'on pourrait exprimer à l'autre. Est-ce qu'on serait en capacité de dire « Voilà comment je me sens, j'ai ce besoin-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour se trouver un petit temps pour en discuter, pour se retrouver, pour trouver une solution, pour peut-être avoir une personne relais? » On est dans l'action pragmatique. Mais avant le passage à l'action pragmatique, est-ce qu'on admet que l'autre a une vision différente de la parentalité, a une vision différente des tâches ménagères, ne voit pas tout ce qu'on fait mutuellement? On est en lecture de pensée de ce que l'autre... Mais quand même, il se rend compte que j'ai besoin de temps pour moi. Mais parfois oui, parfois non. Quand on a des gros événements, par exemple, je prépare le sac de la petite, je prépare la tenue de la petite, je prépare le carnet de santé de la petite, je prépare l'emploi du temps, les horaires, la clé de voiture. J'anticipe. C'est vraiment mon truc d'anticiper. Mais parfois, j'anticipe tellement que je n'ai plus le temps de me préparer, de me coiffer, de me maquiller, qu'il est l'heure de partir. Parce que j'ai pris toute la charge mentale et la charge logistique de l'événement. Et j'en suis ensuite à reprocher de ne pas avoir fait. Mais je ne lui avais pas demandé. Je ne lui avais pas dit. Et combien de clientes dans les lives d'Emotizen et dans les masterclass me disent « Mais quand même, il voit bien, il se doute bien, il pourrait proposer, il pourrait deviner. » Non, il ne peut pas deviner. Parce que lui, depuis sa colline, il ne voit pas les choses comme nous. Depuis sa colline, il se dit si elle a besoin d'aide, elle demandera. Une belle incompréhension entre hommes et femmes, elle dit rien, c'est que ça doit aller. Alors que nous, quand on dit rien, des fois, on va pas bien. On va pas bien, mais on dit rien. Et on pense que l'autre va le savoir avec notre sourcil froncé, que ça suffira. Alors, dans les cas vraiment de grosses connexions de couple, peut-être que le sourcil froncé suffira. Mais je vous invite à dire, écoute chérie, demain on a un rendez-vous, est-ce que tu pourras préparer le sac à langer, le carnet de santé et sortir la voiture du garage? Et là, on est vraiment dans de l'explicite. Dans la demande claire, pertinente, cohérente, on ne lui reproche rien, on lui demande son soutien, son aide. Du coup, ça fait redescendre notre pression parce qu'on se sent aidé, écouté, entendu. L'autre peut dire non, bien sûr, mais on le sort de nous en fait. On sort cette flamme aussi de culpabilité et d'impuissance que l'autre ne comprenne pas et on démêle la pelote. Donc pour la personne qui m'a posé en DM cette question, comment on arrête de compter les points dans le couple, comment on arrête de se crier dessus, comment on fait pour ne pas s'agacer et dire que tu fais rien et que moi je fais tout, et cette posture de sacrifice qui est plutôt le rôle des mamans, mais qui peut aussi se répartir comme charge mentale, je vous invite à faire ces trois actions-là. La première, c'est pourquoi je me sens comme ça? De quoi j'ai besoin? Ensuite, comment je peux l'exprimer à l'autre sans le rendre responsable de mon émotion? Quelle demande je vais lui faire pour qu'on puisse répartir, aller sur un besoin d'équité, de réciprocité? Et après, en troisième étape, ça va être de faire passer le message que si on est dans cet état-là, on aimerait tellement se reconnecter avec monsieur, avec le mari. On aimerait tellement se reconnecter au-delà des problèmes de décision et de logistique. Parce que cela, on les aura toujours. On va apprendre à vivre avec. Et la personne qui m'a posé cette question sur Instagram, elle a déjà 2 enfants. Donc imaginons, s'il y a un 3e enfant un jour, il y aura encore un rééquilibre à trouver entre deux. Parce que le papa, la maman, et là, c'était les mêmes parents. Il peut y avoir recomposition familiale, il peut y avoir garde alternée. Mais cette communication qu'on va tisser dans le couple, cet échange de besoins, de soutien, de partage, de manière très claire, très pragmatique, elle est précieuse non seulement pour redescendre nos flammes désagréables dans notre cheminée personnelle, elle est importante pour que notre couple dure dans le temps, et elle est aussi importante pour l'incarner auprès de nos enfants. Parce que si en tant que maman, je suis toujours en train de reprocher à mon mari de ne pas faire attention, de ne pas faire ceci, de lui donner une liste de tout ce qui fait mal, quelle image je donne d'une relation de couple à mes enfants? Juste celle qui râle, qui critique, qui persécute. Et on est peut-être plusieurs à avoir vécu ça. Peut-être que vous avez vu vos parents se disputer, se crier dessus, se balancer des objets au visage, et indirectement, ça vous a donné une vision du couple. J'en parlais un petit peu dans l'épisode sur l'atelier philosophie. Quand on a des parents qui se disputent tout le temps, les enfants, quand ils arrivaient sur le thème de l'amour, ils disaient « l'amour, c'est se crier dessus et se taper dessus, et des fois, papa, il tape maman, et des fois, maman, elle crie. » Donc, la vision de l'amour qu'ils ont, du couple, de leurs parents, est déjà impactée par ce qu'ils ressentent au quotidien, ce qu'ils vivent au quotidien. Je ne dis pas de ne jamais se disputer devant les enfants. Je dis juste d'apprendre à se disputer de manière autonome émotionnellement. Je dis mes émotions, je dis mes besoins, je peux écouter tes émotions, je peux écouter tes besoins. Je te propose une première piste, tu l'acceptes ou non. Tu me proposes une autre piste, je l'accepte ou non. On est dans de la négociation. On est dans aucun des deux ne se sacrifie, aucun des deux ne s'écrase. On a une relation horizontale. On est tous les deux les parents de ces enfants-là. On les a fait à deux. On n'a peut-être pas le même travail, le même emploi du temps, la même fatigue. Papa n'allaite pas, par exemple. Ce sont des points précis. Comment équilibrer? Et chaque personne, chaque couple aura sa réponse. Quand je fais un atelier sur le couple, je dis, je n'ai pas la trame idéale pour votre couple. Parce que papa fait peut-être des choses que dans d'autres couples, les autres papas ne font pas. Et inversement, il y a des couples où c'est papa qui cuisine, qui gère les menus, qui gère les courses. Donc ça fait une charge différente, mais ça ne veut pas dire que la charge mentale, elle n'est pas aussi grande chez la maman. C'est à vous de voir le ressenti que vous avez vis-à-vis de la répartition, à vous de voir quel est l'état de votre communication de couple, qu'est-ce qui a été vécu avant, est-ce que vous aviez déjà travaillé sur ça avant d'avoir les enfants, est-ce que c'est apparu quand l'enfant est né? C'est possible. Peut-être qu'il y avait déjà une difficulté de communication, mais qui a été décuplée à l'arrivée de l'enfant. Donc j'espère que ces pistes vous aideront pour remettre un peu d'amour, de connexion et de communication dans le couple. Première option, vous pouvez réécouter l'épisode 41 qui parlait du couple parental. Et puis deuxième option, vous pouvez me pinguer, me rajouter, aller voir sur Instagram. Et c'est vraiment ce qu'on fait en scan, en séance individuelle. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez réserver sur le lien Calendly qui est dans ma bio Instagram ou dans ma bio Facebook pour réserver une séance. Et je vous détaille tout ça avec ce que vous vivez précisément. J'espère que ces pistes vous aura été utile. Au revoir, bonne semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.